Que mettre dans nos sacoches pour partir à l'aventure en vélo pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines? Voici un épisode rempli d'astuces. Allez, c'est parti!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive.
Et aujourd'hui, nous partons à vélo avec Alice Michel. Vous choisissez la destination et Alice va nous aider à remplir les sacoches. Car en me lançant dans le vélo, je me pose de nombreuses questions. Vous le savez si vous suivez mon podcast KM350, qui parle de mes débuts en gravel, la préparation d'un gravelman, ma première course. Et maintenant que je roule plus, je me prends à imaginer des aventures à vélo de quelques jours pour aller voir la mer ou l'océan, par exemple cet été. Cet épisode a d'ailleurs été enregistré une semaine après mon escapade pour aller voir à vélo, depuis Vichy, mon ami Armano, dans la traversée de la France, passée par la Bourgogne et le Beaujolais, soit pour moi 170 et 140 km pour aller le retrouver. Mais que ce soit pour un entraînement, pour une épreuve comme le Gravelman ou pour une escapade plus longue en bikepacking, je me demande bien quoi manger, comment m'organiser pour que cela reste un plaisir et ne pas finir sec. Alors nous avons invité Alice Michel, diététicienne et nutritionniste. Et nous ne l'avons pas invitée pour ses talents de coureuse dont elle n'a même pas parlé, mais sachez qu'elle a été deux fois championne de France Espoir et vice-championne de France par équipe encore l'an dernier sur marathon. En fait, nous l'avons invitée pour son expérience de voyage à vélo. Italie, Grèce, Nord de l'Europe et d'autres destinations. Et vous allez voir qu'elle nous a donné plein de stratégies, de conseils sur l'organisation globale, quoi manger, à quel moment, comment prévoir les courses et aussi quoi manger dans un arrêt boulangerie. Normalement, après vous saurez quoi mettre dans vos sacoches tout en vous méfiant du chocolat. Allez, c'est parti. Avant de vous laisser avec ma discussion avec Alice, je vais remercier Coro qui sponsorise cet épisode. Dans notre discussion, Alice recommande les flocons d'avoine, les oléagineux ou encore des dattes, de bons pourvoyeurs d'énergie qui ne prennent pas de place pour voyager dans les sacoches du vélo. Vous pouvez acheter ces produits en ligne directement chez Coro, KORO.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous allons négocier avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro, KORO.fr, utilisez le code HAPPYRUN5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant avec mes discussions avec Alice. Allez, c'est parti. Bonjour Alice.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. On commence à retrouver les beaux jours à Paris, donc c'est toujours agréable.
Que maintenant les beaux jours à Paris? Ouais, ça fait quand même...
On a eu un peu de météo, des bonnes pluies là, vers mai. On a pris des bonnes averses et là c'est bon, ça fait des bonnes semaines avec un bon soleil.
Ouais, c'est vrai que en plus, bon, on va parler vélo aujourd'hui. C'est vrai que sur le vélo, moi, je trouve que quand il pleut, quand il fait froid, quand il y a du vent, moi qui découvre le vélo, pas sympa quand même.
Ouais, dès qu'il y a de la pluie, dès que même le vent, c'est toujours des paramètres qui sont un peu qu'il faut prendre en compte dès qu'on sort le vélo. Donc c'est vrai que c'est toujours, on regarde toujours la météo dès qu'on veut faire du vélo. Et là, quand on arrive vers les beaux jours, c'est toujours plus agréable parce que la question se pose un peu moins.
Ouais, sauf que l'autre jour, en fait, j'aurais dû me poser la question plutôt du soleil parce que alors, j'ai pris des coups de soleil sur les bras et puis des marques sur les cuisses. Tout le monde s'est foutu de ma gueule sur Instagram parce que j'avais grillé comme une saucisse et que j'ai des marques maintenant. Les marques de cycliste, on m'a dit que c'était comme ça, le cycliste, il y avait des marques de partout.
Ah ouais, c'est les bras, les jambes et un coup sec sur les cuisses. Et là, on voit bien la démarcation.
Voilà, donc maintenant j'ai des belles bandes. Alors après j'avais essayé de bouger un petit peu le cuissard et j'ai fait d'autres bandes. Alors maintenant j'ai deux bandes rouges de coups de soleil différentes. Alors maintenant je suis en train de peler comme une patate. Bref, c'est les petites histoires comme ça. Moi je découvre le cyclisme, hein, je découvre le vélo. Ça fait quoi 5 mois je roule sur un gravel. Ce qui m'empêche pas d'aligner un petit peu, de vouloir faire plus de kilométrage, de faire un gravelman, des choses comme ça. Et là moi après comme je découvre, je me retrouve avec des questions et je me dis et comment je gère tout ça et notamment comment se nourrir quand on fait du vélo, quand on part en aventure, bikepacking, quand on part plusieurs jours, etc. Parce que ça, c'est le grand questionnement, et puis je suis pas le seul, hein, vraiment, là-dessus. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, demandez de nous dire quelques mots sur qui tu es, en fait, et te présentant quelques mots. Voilà.
Alors moi, c'est Alice, je suis diététicienne depuis 2015, et je me suis spécialisée dans la nutrition sportive par la suite. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup de consultations et de suivi auprès de sportifs de tout niveau, des amateurs comme des un peu plus confirmés, sur tous les types de sports. Après, ça rejoint globalement souvent le vélo, la course et le triathlon. C'est vraiment la majorité du public que j'ai. Je fais aussi, j'interviens dans des établissements scolaires, dans la seconde au BTS deuxième année, et après des interventions de temps en temps dans des entreprises sur la nutrition. Donc voilà, je fais ça. Et après, je pratique aussi la course à pied, moi, de mon côté, personnellement.
Et tiens, alors j'ai une question qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais c'est cool les interventions. À partir de la seconde, tu fais des interventions?
Ouais, j'ai des classes de la seconde, au BTS, comme je te disais. Je fais tout ce qui est de la nutrition, de la prévention sur l'activité physique et pour le bien-être, tout ce qui est environnement et tout aussi sur les classes. Ouais.
Oui, ils écoutent.
C'est de la prévention sur santé-environnement. Ouais. Ils écoutent, bah, ça dépend des classes, mais ouais, il y en a qui sont intéressés quand même.
Non,
Heureusement, ce sera un peu plus embêtant.
mais... Ouais, non, mais c'est un sujet parce que souvent on se pose la question, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui disent ouais, on devrait enseigner ces trucs-là et tout, parce que bah, il y a quand même. On voit qu'on n'a pas tous les bons réflexes en tout cas. Mais c'est bien. Tu vois, alors moi je suis content que ça se fasse et je me dis bon, c'est peut-être un petit peu tard, non, des secondes. Enfin, je sais pas.
Bah, c'est vrai que tout ce qui est équilibre alimentaire, l'apprentissage de l'éducation nutritionnelle, comme on dit, ce serait bien de le mettre en place le plus tôt possible. Et ça se fait en effet assez tard, assez dans des lycées. C'est pas dans tous les établissements scolaires en plus. Donc c'est vrai que c'est une vraie problématique. Alors, plus quand on est dans le milieu, parce qu'on se dit qu'il y a plein de choses à apprendre, surtout bah, aux jeunes qui mettent en place les bons réflexes rapidement. Et c'est pas toujours le cas. On voit des choses un peu aberrantes des fois et on se dit. Si on leur apprend, en fait, si on leur met les clés en main, ça peut être beaucoup plus simple pour eux, ce qui n'est pas toujours le cas.
Ouais, moi qui étais enseignant pendant 10 ans à la fac, quand je voyais ce qu'il y avait sur les tables, sur les
Oui.
après-midi que je passais avec eux, oh là là, qu'est-ce que j'ai halluciné. Mais après, je peux pas leur en vouloir parce que moi-même, un jour, la diététicienne m'avait dit un truc du style, il va peut-être falloir arrêter de manger comme un étudiant. Enfin, tu vois, elle a dit un truc comme ça. C'était l'époque où je faisais 30 kilos de plus. Voilà, donc.
À la fac de quoi que t'enseignais?
Alors moi, j'ai enseigné en journalisme, j'ai enseigné en communication, j'ai enseigné en réseaux sociaux, j'ai enseigné dans tous ces trucs-là, c'était mon domaine comme ça. Et j'ai enseigné aussi dans des écoles. Et c'est vrai qu'il y a des fois, les écoles, je les avais pendant 4 heures et tout. Et alors, ils me sortaient de ces goûters. Alors là, c'est vraiment pas le sujet, mais ils me sortaient des goûters. Ils sortaient des bouteilles complètes d'iced tea qu'ils buvaient sur l'après-midi et tout. Je regardais ça, je disais, oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont en
Ah
train de
oui, bah
faire, les gens.
c'est toujours pareil. Un lycée, à la pause de 10 heures, ça va être pain au chocolat. Il y a des canettes à vendre, type Fanta, Coca, et ça passe toujours à 10 heures, quoi. Alors, pour ceux qui prennent pas de petit-déj, ça peut être une alternative, mais c'est pas forcément la meilleure option non plus, quoi.
Bon, allez, cette parenthèse, tu vois, c'était vraiment de la vraie curiosité.
Oui.
Aujourd'hui, on est là pour parler de vélo. Et notamment, alors, c'est, tu vois, je disais, moi, je fais pas de vélo depuis très longtemps, etc. Et j'ai découvert des trucs en vélo qui viennent. Quand on vient de la course à pied, en course, on a toujours ces trucs, ça ballotte dans le ventre, on peut pas manger ce qu'on veut, on fait attention, etc. Et puis alors, en vélo, j'ai découvert, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde du vélo, des gens qui commencent à faire des arrêts à la boulangerie, qui commencent à manger plein de trucs. Que moi je pensais qu'un sportif ne mangeait pas ou ne mangeait plus. Et je me suis dit, alors là, il y a un monde que je redécouvre, mais totalement. Et je l'ai testé en plus. Le pire, c'est que j'ai testé. Alors, je sais pas si c'était la bonne idée. Enfin, c'est bien passé quand même. Mais c'est vrai que la différence entre la course et le vélo, quand même, elle est quand même assez fondamentale sur le plan de l'alimentation.
Ça, c'est clair que bah, en course à pied, en fait, il faut contrôler, j'ai envie de dire, bien plus qu'en vélo, quand on fait une sortie vélo, parce qu'au niveau de la digestion, ça ne va pas du tout être le même processus, puisque quand on court, il va y avoir tous les impacts au sol qui vont faire qu'au niveau intestinal, bah, le système digestif va être accéléré et on risque d'avoir des troubles gastriques. Ce qui, en vélo, comme c'est un sport un peu plus porté, où au niveau intestinal, il n'y a pas de choc. On peut manger bah, des choses qu'on ne peut pas se permettre du coup en course à pied, quoi. Et donc c'est pas du tout les mêmes on va pas du tout faire les mêmes choses en vélo ou en course à pied, quoi.
Ça peut ne, enfin, ça arrive jamais des problèmes intestinaux en vélo. Enfin, ça peut arriver quand même. Il y a bien des trucs qui doivent arriver quand même.
Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Ça va plus être type des ballonnements, quelque chose qui va être mal passé, mais on Ou alors parce que le transit, on a envie d'aller aux toilettes, donc on a envie d'aller aux toilettes, mais c'est pas le sport vélo qui va faire que les chocs au niveau intestinal donnent envie d'aller aux toilettes. Ce qui peut se passer, ça va plus être sur un triathlon, quelqu'un qui va peut-être mal en vélo manger trop tard, quand il va passer sur la course à pied, au début de la course à pied, comme il va avoir mangé sur le vélo trop tard, il va avoir envie d'aller aux toilettes et d'aller aux troubles gastriques. Mais encore une fois, du coup, c'est la course à pied qui va donner ces troubles, parce qu'on a mangé trop tard en vélo.
Ouais, bon, et là j'ai l'image juste avec la trifonction, je lui dis, ouais, la galère que ça doit être. Mais bon, en vélo avec les cuissards, quand t'as les bretelles, etc. aussi, il y a des images, on avait des images des fois de cyclistes pros qui s'arrêtent, qui galèrent sur le bord de la route, etc. Donc, Enfin voilà, ça fait partie des choses. Et je le dis avec un grand sourire parce que ces problèmes intestinaux pour la course à pied sur mon compte Instagram, c'est ma vidéo qui a le plus de succès. Alors il y a plein de gens qui en ont, mais alors en vélo, pour l'instant, on n'a pas parlé. Et c'est vrai que tu vois, moi par exemple, j'ai fait un gravelman et à midi, j'ai mangé un burger frites. Et tout le monde me dit, mais t'es fou, t'as pas eu de problème et tout. Et je dis, bah non, écoute, ça a roulé, la montée derrière s'est bien passée. Il n'y a eu aucun souci, mais vraiment aucun souci. Alors, je vois aussi plein de gens qui s'arrêtent dans les boulangeries, ceux qui font de l'ultra-endurance. Enfin, moi, tu vois, je suis des gens, on a eu Steven Lujarric comme invité du podcast. Quand je vois Steven Lujarric, bon, il roule à toute vitesse. Quand je vois ce qu'il mange, etc., ça fait pas très régime de sportif, en fait.
Sportif, ouais. Bah, parce qu'il va chercher des calories, en fait, sûrement, puisque le vélo, ça va être quand même énergivore. Du coup, il a besoin d'apporter des calories. Et comme on le digère plutôt bien, ce que tu disais là. D'ailleurs, en effet, moi, ça m'intéresse. Il y a des gens qui ont déjà eu des problèmes gastriques sur le vélo. C'est vrai que moi, j'ai rarement de patients qui viennent pour des problèmes gastriques sur le vélo. Ça va être, comme tu dis, en course à pied, des ballonnements, des diarrhées, constipation ou autre. Et en course à pied, non, on va plus chercher des calories. Donc, en effet, on peut se permettre de manger des choses type burger frites. Alors après, si après on prend ça à midi et qu'on continue à rouler sans borne derrière en plein cagnard, ça peut aussi être un peu compliqué, pas forcément très agréable, mais au niveau digestion, normalement, il y a rarement des soucis.
C'est lequel qui est le plus énergivore ? C'est la course à pied ou c'est le vélo ?
En fait, le truc, c'est que la course à pied, l'effort qu'on va faire en vélo, il peut être beaucoup plus long qu'en course à pied. Donc, on peut partir en course à pied, partir sur 5 heures, on ne le fait pas, à moins d'être un ultra-trailer et d'avoir besoin de faire un volume vraiment important. Alors qu'en vélo, partir 5 heures, ça se fait beaucoup plus. Donc, si on prend vraiment sur une heure, la course à pied va être plus énergivore. Mmh. Mais comme en fait, le vélo, on part rarement sur une heure, sauf peut-être sur des sorties récup de temps en temps ou des balades ou autres. Sinon, après, si on compare une activité course à pied à une activité vélo, comme le vélo, c'est beaucoup plus long, au final, on va cramer plus d'énergie. Mais en termes de ratio, la course à pied reste plus énergivore.
D'accord. Parce que moi, tu vois, quand je suis arrivé à la fin de mon gravelman, mon compteur, il m'annonçait 6000 calories ou 6000 quelques calories de dépensées, tu vois, grillées. Et je me suis dit, bon, bah, ça explique que j'ai faim aussi, tu vois, le soir et tout. Et l'autre jour, j'ai vu un documentaire sur Prime, tu sais, sur une équipe cycliste, sur une chef custo qui suit une équipe cycliste, qui est super intéressant parce qu'elle montre comment elle fait la cuisine, etc. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit, il faut que je nourrisse des mecs qui mangent 4 fois plus que moi, qui grillent plus de 6000 calories par jour sur une étape du Tour de France. Faut qu'ils aient envie de manger, que toutes ces gestions, etc. Mais c'est vrai que c'est le temps d'effort qui est long, en fait. Et bon, en plus, ils vont être à des vitesses qui sont incroyables. Mais c'est vrai que passer des heures, finalement, dans une activité, en vélo, c'est vite fait.
Et puis en plus, le vélo, tu rajoutes là, comme tu me dis, le tour et tout, tu rajoutes le dénivelé aussi qui va être pris en compte et qui va, musculairement, qui va cramer plus d'énergie parce que c'est un effort sur un col où on n'a pas du tout de répit, du coup, sur toute la montée du col. Donc pareil, on va cramer, ça crame pas mal de calories. Et comme c'est un effort qui est long aussi, c'est pour ça qu'il faut manger. Et aussi, à l'inverse, il faut faire attention parce qu'il faut manger... faut bien manger avant, parce que les hypoglycémies en vélo, c'est vite arrivé. Et quand ça arrive d'un coup, là, c'est trop tard. Par contre, il n'y a plus d'énergie. D'un coup, on n'avance plus du tout. Quoi.
Alors ça, c'est ce que tout le monde m'a dit. Il m'a dit, attention, parce qu'en vélo, être à sec, ça ne pardonne pas.
Hein. Ah ouais, non, t'as jamais eu?
Non.
Ah ouais, j'espère que tu n'en auras pas.
C'est vrai, tu me fais peur.
Ouais, bah en vrai, ça arrive et ça ne prévient pas. Hein. D'un coup, on n'avance plus, quoi.
Parce que moi, ne plus avancer, ou alors je l'ai pas ressenti, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai l'impression de plus trop avancer. Il m'est arrivé un truc la semaine dernière quand même, et ça, tu vois, par contre, c'est vrai qu'avec la chaleur, parce que je parlais de la météo au début, me retrouver totalement à sec, mais plus avoir une goutte d'eau. Alors ça, par contre, au début en vélo, moi je trouvais que je buvais pas assez, j'oubliais de boire. Et puis à la fin, et là, sur mes derniers trucs là, quand je suis rentré de mon petit périple Bourgogne, Beaujolais, etc., j'ai fait 140 km. Il faisait chaud, donc je suis arrivé grillé comme une saucisse, et puis j'avais soif et tout. Et bon, les cimetières étaient fermés quand je suis passé ce jour-là, donc je n'ai pas pu aller chercher de l'eau dans les cimetières, etc. C'est quoi la consommation ? Il faudrait boire combien d'eau, en fait, quand on roule comme ça, en vélo, à peu près ?
Bah, du coup, ça va dépendre aussi de la chaleur extérieure et de la transpiration que tu as, mais en gros, 500 ml d'eau sur l'heure, ce n'est pas déconnant. Mm. Et après, plus il fait chaud, plus tu peux augmenter tes apports hydriques. Pareil, quelqu'un qui va être Bon, ça dépend aussi de la taille de la personne, du poids. Il y a des gens qui vont transpirer beaucoup plus vite et d'autres qui ne vont pas transpirer. Donc ça dépend. Il y a beaucoup de paramètres, mais en effet, boire de manière régulière et ça peut monter à 500 ml sur l'heure.
Mais alors la stratégie comment enfin c'est là où tu vois moi je me dis une stratégie parce que moi en courant enfin avoir besoin d'eau si ça peut arriver sur des grandes sorties sur de l'ultra etc mais sur le vélo comme on dit les sorties s'allongent on peut pas partir avec enfin moi j'avais 2 bidons d'un litre donc j'avais 2 litres d'eau avec moi tu vois quand même on peut pas partir non plus avec 10 litres d'eau tu vois sur le vélo donc c'est quoi la stratégie faut t'as des astuces?
Bah, après, en général, en vélo, comme on fait des grandes distances, on passe quand même généralement dans des villes, dans des petits villages, enfin, des endroits où il y a un peu de vie. On peut alors éventuellement trouver des fontaines. Donc, quand il y a un peu de vie, on peut s'arrêter dans un bar, demander à remplir la gourde. S'il y a rien d'ouvert, on peut sonner chez l'habitant, demander qu'il remplisse de l'eau. En général, les gens, ils disent rarement non, hein. Quand c'est vraiment le dernier recours, ou alors avant, on s'arrête dans le bar du coin, on demande de remplir l'eau, ça prend 2 secondes à tout le monde. Et au moins, on repart et on est sûr de ne pas manquer.
Alors pour l'anecdote quand même j'ai vu un bar qui l'avait fait qui a demandé à la personne, il a dit vous consommez quelque chose? Il a dit non, ben moi je vous donne pas d'eau. Bon,
Mais normalement, les bars, alors ça, quand même, il faut savoir que les bars n'ont pas le droit de refuser. Alors, je sais que moi, je me suis déjà fait refouler en me disant que l'eau n'était pas potable. Donc, ça, c'est juste, c'est qu'ils n'ont pas envie de la donner. Parce que bon, l'eau pas potable dans le bar, voilà, ils ne veulent pas dire non, du coup ils disent que l'eau n'est pas potable. Mais semble que vraiment, ils n'ont pas le droit de refuser quand quelqu'un demande.
D'accord. Là, c'était drôle. Alors, en plus, on était une centaine à passer parce que c'était l'heure du Gravelman. Donc, c'était là où justement, je m'étais arrêté de manger mon burger. Mais sur le coup, je me suis dit, c'était pas cool, tu vois. Je dis après, je la comprends parce que s'il y a 100 personnes qui s'arrêtent, elle dit, ouais, moi, l'eau, ça me coûte, etc. Alors, c'est pas comme s'il y a qu'un cycliste qui passe dans le coin, tu vois, ce jour-là. Peut-être qu'au bout d'un moment, peut-être qu'elle a eu d'autres demandes, je sais pas. Mais sur le coup, je me suis dit, c'est pas cool. Et de l'autre côté, je me suis dit, le gars, tu vois, à limite, il lui prenait un truc à 1 euro et il partait avec ses bidons d'eau, etc. Parce que derrière, il y avait 5 heures à rouler et on nous avait prévenu qu'il n'y avait pas de village à traverser. Parce que ça, c'était le cas. Alors ça, c'est Yannick qui a fait une trace. Aucun village pendant 5 heures. Alors là, franchement, il a réussi à nous faire passer dans des trucs comme ça et tout. Et je m'étais dit, heureusement que moi, j'ai fait le plat à midi, tu vois, que j'avais pris de l'eau. Parce que dans ces cas-là, finalement, ça pourrait aller relativement vite de se retrouver à sec.
Parce que là, du coup, le gars, il a fait comment si elle lui a dit non, de
Bah, je
remplir
sais
l'eau?
pas en fait ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a pris. Moi, dans la commune, j'ai pas vu de fontaine. Bon, après, il y avait des supermarchés. Peut-être qu'il s'est arrêté.
Là, je t'ai brûlé une bouteille et il l'a mis dans la gourde.
Peut-être, je sais pas. Après, je l'ai pas revu en fait, je t'avoue. Ça se trouve, il est encore
Ouais.
sec quelque part au bord de la route. Non, allez, je pense que tout le monde est arrivé ce jour-là. Et après, on a eu le passage où le soir, c'était un peu tard, tu vois, où les bars étaient fermés sur la fin de l'épreuve, parce qu'il y avait une colle, moi je l'ai monté à 21 h. Là, c'était un petit peu fermé sur des trucs. Mais c'est vrai que moi, le coup, alors me retrouver en hypo, j'ai pas connu, mais me retrouver à sec d'eau, par contre, ça, j'ai testé. Et effectivement, j'avais l'impression que j'étais scotché en plus. Alors en plus, il y avait un petit peu de vent dans cette histoire-là. Ça avait fini vraiment hop, je suis arrivé séché, vraiment à la maison. Alors, la question que je me pose aussi, c'est finalement, dans ces bidons, on met que de l'eau ou on met autre chose?
Alors bah là justement c'est une autre problématique. En général, bon, ce qui est bien déjà quand on part sur des grandes distances, c'est comme tu disais d'avoir 2 bidons. Parce qu'en général sur les vélos, on peut accrocher 2 porte-bidons. Donc moi en général ce que je conseille c'est de mettre un bidon que d'eau et un autre bidon dans ce cas-là où on peut ajouter selon la distance un peu de sucre, un peu de boisson d'effort pour justement avoir un apport régulier de sucre et que sur l'effort on apporte de l'énergie. De manière régulière avec la boisson d'effort pour éviter, comme on disait, les hypoglycémies et que le sucre soit facilement absorbé au niveau intestinal puisqu'il est déjà dans l'eau et du coup les particules elles sont petites et il n'y a pas besoin de tout le processus de digestion derrière.
Oui, alors maintenant, si tu pars une dizaine d'heures par exemple, tu pars avec quoi, de quoi le recharger le bidon avec du bois, des produits dedans ou tu te dis ben tant pis, je ferai qu'avec ça qu'au début, comment tu gères ça?
Non, alors là, du coup, ça dépend de la quantité de ta gourde. En général, c'est peut-être 500 ml, peut-être 150 ml. Dans ce cas-là, en effet, tu peux avoir des petites pastilles aussi qui vont être, que tu remets dedans. Donc, dans ce cas-là, si tu sais que tu pars 10 heures, en effet, tu peux anticiper et prendre des pastilles que tu remets dans ton eau après quand tu as fini le bidon, en l'occurrence, d'effort, quoi. boisson d'effort. Et on a, enfin, ce que je conseille, c'est d'alterner de l'eau et la boisson d'effort. Comme ça, on vide pas que l'eau et on arrive sur la boisson d'effort et on commence pas la boisson d'effort trop rapidement non plus. Puisqu'en général, quand on va commencer notre effort en vélo, on n'a pas besoin de la boisson d'effort au bout de 20-25 minutes, quoi. On peut commencer à l'eau sur les 45 premières minutes et quand on arrive vers 45-50 minutes, on boit une petite gorgée de la boisson d'effort pour remettre un peu de sucre dans le carburant, quoi.
Yann, en course, alors souvent on le fait, puis j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un invité du podcast aussi, disant que lui il a mis une alarme, tu sais, quand on court, dire je bois un
Ah
coup
oui,
d'eau,
ouais, j'ai entendu ça.
10-15 minutes, etc. Moi, je me suis posé la question de savoir si je devais le faire sur mon vélo, parce que je me suis rendu compte sur mes premières sorties, j'étais capable de faire des sorties de 2 heures sans avoir bu une goutte d'eau.
Oui.
Alors que 2 heures
Ah,
en
bah,
course,
il y en a
j'aurais
qui
bu
disent
avant.
toutes les 12 minutes, tu vois. Même toutes les 12 minutes, une petite sonnerie pour se dire de boire. Après, c'est bien, mais ça dépend aussi du moment dans la sortie vélo où on va être. Si c'est en pleine descente, à pleine balle, bah, faut peut-être mieux boire du coup 3 minutes avant quand on est dans la montée et anticiper un peu en fonction du parcours, pas être cadré non plus. Parce que ça fait encore des chiffres à regarder, encore des choses à penser. Et c'est bien de contrôler, mais on ne peut pas non plus tout contrôler tout le temps. Alors, si en effet, c'est une méthode parce que quelqu'un ne boit pas assez, en effet, on peut mettre ça en place au début, mais après, peut-être pas s'habituer tout le temps non plus à ça. Pour un peu plus écouter son corps et après, on se connaît un peu sur ce qu'il faut faire ou non.
Sur le, tu vois, sur le, moi, pourquoi je buvais pas, c'est que j'ai pas la sensation de soif, en fait. Avec, je sais pas si c'était l'air et tout, puis bon, il pleuvait en plus au début. J'ai
Oui.
commencé le vélo en hiver, moi. Forcément, et sous la flotte. Donc, je me dis, peut-être que j'en ai pas trop besoin. Mais c'est, en fait, c'est au printemps. Je me suis rendu compte, je me suis dit, ouais, mais attends, tu rentres avec des bouteilles d'eau qui sont pleines, t'as pas bu, t'as roulé 2 heures. En course, tu l'aurais pas fait, cette histoire-là, quand même. Parce que j'ai le sentiment qu'en course, j'ai soif beaucoup plus vite. Après, c'est peut-être une impression, peut-être que c'est l'air, la vitesse qui grise, etc., comme ça, qui rafraîchit, je ne sais pas. Mais en tout cas, en vélo, maintenant, j'ai réussi à mieux cadrer. Et par contre, tu vois, alors là, c'est une question, je me dis, est-ce qu'il y a un moment dans lequel, par rapport, tu sais, aux montées, aux descentes, il vaut mieux boire, manger, etc. Il vaut mieux, c'est quoi, dans les montées, alors, dans les
Dans
descentes,
les montées, c'est plus simple parce que du coup, ta vitesse déjà elle est réduite par rapport à quand tu es dans la descente. Donc, pour manier, pour ouvrir la barre, pour prendre le bidon et tout, déjà c'est beaucoup plus simple. Et puis, comme c'est un effort, en fait, la montée qui va être beaucoup, qui va cramer en fait plus d'énergie et qui demande au corps un effort plus important dans la descente, c'est plus intelligent du coup de le prendre pendant la montée où on va avoir besoin directement de cette énergie que dans la descente où c'est un effort qui est un peu moindre puisqu'on peut laisser faire de la roue libre et laisser un peu le vélo partir. Donc l'effort est moins important que dans la montée où là va falloir donner du sucre et de l'énergie au corps.
D'accord. Donc stratégie, hop, on mange plutôt en montée. En plus, bon, c'est vrai que c'est plus facile, surtout quand on est scotché par une montée un peu raide. Parce que le vélo, c'est rigolo, on peut avancer vite, mais ça, des fois, on se prend de ces coups des coups de frein dès que ça commence à monter, ça stoppe, hein.
Ah bah c'est comme direct, là, une montée, une bonne moyenne et hop, la montée qui arrive, ça réduit tout de suite.
Jour, quand je suis parti, alors ceux qui connaissent le Beaujolais vont me dire, ouais, mais c'est normal, c'est le Beaujolais. Quand j'ai vu que ma première heure et demie, où j'ai fait quoi, 20 km, j'ai fait 600 ou 700 de D+, j'ai dit, punaise, il me reste encore 120 pour rentrer, j'espère qu'au bout d'un moment, il y aura un bout de plat. Et après, effectivement, derrière, il y a eu une grande descente, etc. Alors la moyenne est remontée. Mais alors, sur le
Oui.
coup, franchement, je me suis dit, mais ça va jamais finir, en plus, cette
Et puis
histoire-là.
là, quand tu vois pas passer des kilomètres, c'est long. Hein. Tu te dis, t'avances vraiment pas, t'es sur le vélo. Des fois, c'est bien aussi de voir les kilomètres un peu défiler, bloqué dans la montée, bloqué, quoi.
T'as pas une astuce dans ces moments-là pour que ça passe plus vite?
Bah, là, pour que les kilomètres passent plus vite, mettre plus de rythme, mais bon, pas sûr que du coup, on peut être mort derrière, quoi.
Bon, c'est là en plus où des fois on se dit, mais pourquoi je me suis chargé de ce truc que j'ai pas utilisé pendant 3 jours, etc. Enfin, ça t'arrive tout ça, ce genre de truc aussi, où tout le monde se le dit, ou c'est que moi, en fait?
Ah ouais, non, tu te dis toujours. Après, il y a toujours le truc au cas où que tu vas prendre s'il pleut, les gants. Si tu arrives en haut de la montée, justement, et qu'il fait un peu plus froid dans le col, tu prends les gants. Des trucs que tu ne te sers pas, mais que tu te dis toujours, je vais le prendre si jamais ça arrive. Et après, quand on rentre de la sortie, quand on n'est pas servi, on se dit, bah, j'aurais pas dû le prendre.
Oui, et tu vois, sur un truc comme ça, tu vois, l'autre jour, je suis parti pendant 3 jours. Finalement, on peut se dire, il peut y avoir plein d'aléas. On peut se dire, un vélo, on peut charger plein de trucs, on peut mettre des sacoches, on peut mettre plein de trucs dessus. On peut en mettre du poids quand même sur un vélo, hein. On peut sacrément l'alourdir le vélo si on n'y prend pas garde.
Bah avec les sacoches, là, c'est sûr que deux sacoches à l'arrière et une sacoche devant de cadre ou de selle, et après, on remplit tout ça et ça fait vite du poids en plus. Il faut le porter, par contre, le poids en plus, hein. Pas toujours cadeau.
Alors justement, tu vois, là je me dis maintenant, tu vois, là je suis en train de regarder pendant cet été, je me dis bon, partir, faire des petites... J'ai envie de partir voir l'océan, tu vois, ou la mer, ou un truc comme ça. Je me dis, si je pars 3-4 jours, je me dis, qu'est-ce que je mets dans mes sacoches, tu vois, pour m'alimenter? Parce que je me dis, est-ce que je fais confiance à trouver des supermarchés tout le long et des boulangeries? Ou est-ce qu'il faudrait avoir des trucs, tu sais, ben, genre des pastilles? C'est quoi la stratégie qui permet... Alors, j'ai envie de dire, tu vois, de vivre ça dans une bonne... En bonne forme, tu vois, d'arriver quand t'as, de pas cramer, d'être pas cramé à l'arrivée quand même, quoi.
Oui, d'avoir apporté ce qu'il fallait au corps pour pas qu'il
Ouais.
soit complètement vide à l'arrivée. Bah là, du coup, pareil, encore une fois, ça dépend du coup si tu pars, si la nuit, tu vas être, c'est toi qui dois gérer ton repas, tu es en mode réchaud, tente et tout, ou si du coup tu te fais des vrais repas, des vrais stops, tu as une cuisine, tu peux cuisiner à l'hôtel ou dans un Airbnb. Donc ça va dépendre aussi de ça, mais ce qu'il faut prendre en tout cas dans les sacoches tout de suite, ça va être des aliments qui vont fournir de l'énergie rapidement. Donc, ouais, tu sais, il y a trois macronutriments. Donc là, quand tu vas être sur le vélo, toi, tu vas vouloir principalement des glucides. Et après, comme c'est des efforts qui vont être de longue durée, il va falloir à un moment apporter des protéines pour que tes fibres musculaires bah, puissent régénérer et que tes muscles soient pas, on tape pas trop dedans. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment des glucides et des protéines dans les sacoches. Donc pour ça, tu peux importer tout ce qui va être barre de céréales. Il y en a qui sont très bien, base de graines de chia, de flocons d'avoine, de graines oléagineuses. Tout ça, après, tu peux apporter tout ce qui est fruits secs aussi. Donc, ce qui va être dattes, abricots, raisins secs, c'est des choses qui prennent pas de place et qu'on peut mettre dans des petits sachets. Du coup, on les glisse dans les sacoches et ça se mange assez facilement. Et après, ouais, des fruits, bananes et tout, c'est toujours bien au niveau des glucides. Après, si c'est sur 4 jours, du coup, les fruits, on va peut-être essayer de les consommer plutôt au début du trip vélo, parce que c'est des aliments qui vont être périssables et on garde les aliments non périssables plutôt pour la fin du trip. Et après, bah, ce qui est bien, c'est donc ce que je te disais, tu vois, si t'es en tente et tout, tu peux prendre tout ce qui va être boîte de conserve aussi. Par exemple, les petites boîtes de sardines, les petites boîtes de thon, tout ça pour faire un apport de protéines, pour être sûr d'avoir des protéines si jamais ton supermarché du coin il est fermé et que tu peux rien prendre et tu sais pas où tu dors, tu prends ça pour tout ce qui est protéines.
C'est vrai que, alors c'est une vraie question intéressante d'ailleurs, l'histoire de, parce que je l'ai eu, quelqu'un m'a posé, m'a dit, bah, c'est quoi le mieux de, tu vois, quand tu pars, quand tu débutes et tout comme ça, de dire est-ce qu'il faut faire un Airbnb et puis tu es sûr d'avoir des repas, faire avoir un bout de cuisine, etc. Faire de l'hôtel même, on m'a dit, tu vois, m'a dit, quelqu'un m'a dit, bon, pour ton premier, tu prends un truc Airbnb ou hôtel, et en plus à l'hôtel, tu es sûr de bien manger, enfin, tu es sûr de pouvoir avoir un repas en général et un petit déjeuner. C'est quoi la meilleure stratégie au départ, tu vois, après, quand on.
Bah, je pense qu'il y a des étapes à passer. Peut-être que déjà le soir, sur les premiers qu'on fait de trip vélo, peut-être les soirs avoir un logement où on est sûr dans lequel on arrive. Par contre, je dirais pas forcément que l'hôtel est la meilleure stratégie parce que souvent il y a pas la cuisine et on va manger. C'est pas nous qui choisissons ce qu'on mange et la quantité, c'est quand même très important d'avoir une quantité qui nous convient. Si on va au resto ou autre. C'est pas toujours les quantités dont on a besoin. Si on prend un plat de pâtes, on a besoin d'avoir un vrai plat de pâtes bien gros pour avoir de l'énergie. Donc peut-être plutôt prendre des logements où on sait qu'on a accès à la cuisine, ou un hôtel où des fois on peut avoir la petite cuisine dans la chambre d'hôtel, des trucs comme ça existe. Donc faire attention, moi je pense à ça, pour encore une fois ne pas gérer le paramètre nutrition et pas se dire bon bah je remets ça au resto, quoi. Comme ça, on est sûr de tout gérer. Et après, par contre, si on en avance, on a fait plusieurs voyages à vélo, on peut, bah, après les prochains, peut-être partir en tente. Et dans ce cas-là, on gère vraiment tout et on se remet à nous-mêmes pour la nutrition.
C'est vrai que bon, il y a un truc que j'avais trouvé appréciable, c'est que moi sur les 3 jours où j'étais parti, je rejoignais l'ami Hermano là qui traverse la France en courant là, sur son truc, et lui il était en hôtel parce que enfin il avait trouvé des partenaires en hôtel. Et alors le truc que j'ai surtout trouvé bien appréciable, c'est surtout le petit déjeuner du matin, tu sais les trucs à volonté là.
Oui, j'ai volonté.
Et c'est pratique parce qu'en plus, j'avais pu me faire mon sandwich pour rentrer. J'avais pu me faire mes sandwichs de midi, etc. Donc j'avais fait des stocks quand même. J'avais rempli les sacoches avec 2-3 sandwichs, etc. Pour prendre les trucs. Et puis c'est vrai qu'il y avait le choix parce qu'en plus, il y en avait des œufs, il y avait du jambon, du bacon, des trucs comme ça. Donc trouver de quoi nourrir, j'ai envie de dire, le cycliste pour au moins les premières heures, c'était relativement pratique. Et c'est vrai qu'en plus, ça faisait tout un tas de trucs à pas apporter, parce que finalement, on se dit, bah, je peux être nourri par ça. Par contre, c'est vrai, où tu as raison sur l'hôtel, c'est que la veille, le soir, le repas du soir, ça peut être un peu, les quantités, ça peut être des fois un peu limite sur certains, etc. Et se resservir en plat, enfin, c'était un peu compliqué, en plus, ça finit par faire cher, cette histoire. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Non, mais c'est vrai que c'est un truc à prendre en compte. En se disant, ben, tu vois, puis Armano en plus, lui, il est végétarien, il y a une salade végétarienne le soir. Je lui dis, mais ça te suffit de manger que ça? Tu vois, moi, je me serais servi des frites, etc. et tout. Bon, bon, on pourrait pas. Mais c'est vrai que c'est une bonne remarque, tu vois, je vais le noter dans mon truc parce que j'ai constaté quand même que c'était confortable. Tu vois, d'abord, bon, le repas à l'hôtel, c'est vrai, peut-être pas assez copieux, mais alors, le petit déjeuner le lendemain matin, par contre, ça, c'est vraiment
comme tu
pratique.
Dis, quand t'as un petit déj qui est vraiment quali au niveau de. Et que t'as vraiment un choix. Dedans, tu peux avoir des fruits, des céréales, du pain et, comme tu dis, un apport de protéines. Parce que tous les hôtels ne font pas œufs, bacon, jambon, yaourt. Et donc, tout ça, c'est vrai que c'est des sources de protéines qui sont hyper importantes pour démarrer du coup la journée et avoir en effet comme c'est le premier repas de la journée sur lequel on va puiser l'énergie, on ne peut pas se permettre de partir endetté dès le début si la journée, après, on sait qu'on va avoir 6-7 heures de vélo derrière, quoi. Donc, si tu sais, enfin, si c'est un hôtel où on sait qu'il y a tout ce qu'il faut au niveau du buffet, ça, c'est vrai que ça peut être une très bonne alternative de petit déjeuner, de premier petit déjeuner.
Pour quelqu'un qui serait plutôt tente, hamac, bivouac ou je sais pas quoi, tu lui conseillerais de dire ça serait pas mal de mettre un réchaud dans les sacoches pour faire un repas chaud au cas où, enfin faire chauffer des trucs?
Ouais, je pense que le réchaud, là, ouais, je conseillerais complètement un réchaud pour déjà bah, pour manger chaud et aussi bah s'il suffit les féculents, les pâtes, le riz, que ce soit du blé, beaucoup, riz, épeautre, enfin peu importe, c'est des choses qui vont se faire cuire pour les acheter. Sinon, ça veut dire encore une fois qu'il va devoir soit aller au resto, soit manger un plat déjà préparé en supermarché et qu'il pourra rien se cuisiner, donc il va dépendre en fait de l'extérieur. Et alors que c'est toujours mieux de savoir que on peut nous-mêmes se gérer et qu'on n'a pas besoin d'attendre quelque chose de l'extérieur. Avoir juste que le supermarché soit ouvert pour s'acheter un plat. Et pareil, du coup, quand il va être avec son réchaud et tout, ce qui est bien aussi là, c'est qu'il va tout faire cuire dedans. Donc, par exemple, s'il se fait des pâtes aux légumes et tout, bah, l'eau des pâtes, par exemple, tu peux très bien la boire parce que dedans, il va y avoir le jus des légumes et il peut y avoir des vitamines qui sont parties dans l'eau. Dans l'eau de pâte, l'eau de cuisson, et donc après il peut aromatiser un peu comme il veut, ou alors il essaye de faire une soupe de pâte avec les petits légumes dedans, parce que l'eau va être intéressante au niveau vitamines et minéraux qu'on a également besoin sur un trip vélo. On n'a pas besoin non plus que des glucides et que des protéines, même si ça reste quand même la priorité. Si on peut faire attention à côté ce qu'on apporte aussi, tous les petits plus comme ça, c'est intéressant de les mettre en place.
Ouais, c'est une bonne remarque. Ça aussi, je le coche. Je mets sur ma petite liste. Mais c'est comme ça que j'apprends les choses, moi, en fait. Hein, c'est en cherchant des conseils de ce type-là. Il faudrait, enfin, après, tu dirais, il faudrait quand même avoir de l'autonomie, enfin, au cas où, enfin, ou alors il faut vraiment bien planifier ces étapes en disant, je suis sûr, j'ai passé par un supermarché, par un village, etc. Ou faut se dire, faudrait avoir une journée ou deux d'autonomie au cas où je traverse pas.
Disons qu'on peut se permettre de toujours garder un repas lyophilisé dans le sac. En général, c'est quand même pas lourd. Alors, c'est pas le meilleur, hein, c'est sûr que c'est pas le meilleur. Et ça nous laisse quand même une petite option si jamais tout est fermé, comme tu dis, parce que si on part en vélo et qu'on n'a pas calculé que c'était le lundi de Pentecôte qui est férié, il n'y a plus de boulangerie ouverte, c'est le supermarché du petit village qu'on avait prévu est fermé. On sera content d'avoir notre plat lyophilisé, quoi. Ou si c'est un dimanche après-midi, que la boulangerie du petit village dans lequel on voulait passer est fermée à 14h et on passe à 16h30, bah pareil, quoi. On est content d'avoir gardé une petite barre de céréales dans la poche pour justement toujours se gérer soi-même et avoir un petit truc en plus. Alors non, je ne conseillerais pas de garder le plat de pâtes sur les. Enfin, le paquet de pâtes sur 7 heures de 500 grammes dans la sacoche parce que ça, il faut la porter. Mais un petit paquet lyophilisé, en général, c'est assez léger et ça peut sauver. si jamais c'est fermé, le supermarché sur lequel on est allé.
C'est drôle parce que ton histoire de lundi Pentecôte et de boulangerie fermée après 14h, en direct, tu expliques ce que j'ai fait la semaine dernière.
Ouais. Je l'ai vécu aussi, donc.
Moi, c'est vrai que je suis parti. En plus, alors pour tout dire, je pars le lundi de Pentecôte, tout était ouvert partout. Et pourtant, je suis parti à 6h, mais les bars autour de moi et les boulangeries étaient ouvertes, etc. Tu vois, parce que je suis à Vichy. Mais c'est vrai que dans les petits villages, c'était pas ouvert. Il y a même, je suis arrivé dans un village dans le Morvan. À un moment donné, j'ai regardé, j'ai dit, vous êtes ouvert? Il me dit oui. Et je dis, bah, vous êtes le seul truc ouvert. Il me dit, bah oui, c'est lundi de Pentecôte. Je le sais et tout. Et c'est vrai qu'à part les quelques villages touristiques, il y avait beaucoup de trucs qui étaient vraiment fermés, etc. Et vraiment. Et après, bon, au retour, le mercredi, ça allait mieux. C'est vrai qu'il y avait plus de vie, c'était plus ouvert, etc. C'est vrai qu'il y a des moments, des fois, début d'après-midi, tu arrives devant une boulangerie, elle est fermée. Bon, ça peut arriver, mais en général, tu arrives à trouver des trucs quand même plus facilement. Mais
Bah,
ça me
tu vois, moi
rassure.
qui suis à Paris, en fait, j'ai pas, enfin, moi, l'habitude de, comme tout est tout le temps ouvert, c'est vrai que le dimanche ou même des fois le samedi après-midi, faut se dire, ah oui, c'est vrai que tout, enfin, Paris, c'est un peu, voilà, c'est ouvert, mais c'est pas du tout partout comme ça, quoi. Donc, faut quand même se dire, bon, c'est vrai que là, faut quand même que j'anticipe peut-être de garder deux barres de céréales au cas où, comme tout ne va pas être ouvert, quoi. Et ça dépend des grandes villes et aussi, du coup, des habitudes de chacun, selon son lieu d'habitation, quoi.
Mais si tu viens à Vichy un jour, ville touristique comme c'est, tu sais, t'as toujours un supermarché ouvert jusqu'à 20h30, le Monoprix est ouvert jusqu'à 20h30 et tout, sauf le premier jour de Noël et le 1er mai. Faut pas rouler ce jour-là, mais sinon ça, tout est ouvert, c'est une ville touristique. Non mais c'est vrai, ça fait
Les
des choix
grandes
qui
villes,
sont
c'est
vraiment
ouvert,
différents.
c'est vrai.
Par contre, toi, avant, j'habitais à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, dimanche après-midi, tu peux te retrouver à sec assez rapidement. Hein. Voilà, si tu viens te rouler en Auvergne, je te le dis. C'est les deux villes, elles ont pas la même taille, mais t'as vraiment des habitudes. Et c'est vrai que le lundi de Pentecôte, mais me suis retrouvé. Alors, dans ce village-là, j'ai cherché sur le terrain de foot voir s'il n'y avait pas de l'eau. Non, les vestiaires étaient fermés, le cimetière était fermé. Je dis mais où
Ouais,
est-ce que je vais
voilà.
prendre mon eau quoi, à la fin et tout. Et c'est vrai qu'il y avait ce petit bar comme ça. Et en plus, elle était très sympathique la dame et tout. Et bon après, ils étaient de conseils un peu curieux parce que je sais pas si t'as déjà eu le coup. Et m'ont dit, un gars m'a dit, waouh, mais pour aller là, il vous reste plus qu'un col à passer. Et après, vous serez tranquille. C'est plus que la descente. Ouais, bah, en fait, ça montait, ça descendait encore
Oui,
bien
c'est
après.
des montagnes russes.
Et je me suis dit, punaise, si lui venait faire du vélo avec nous, il se rendrait compte que ce qui monte, ce qui descend en voiture n'a pas le même
Même
retour,
signification en vélo.
même signification en vélo. Mais tu vois, alors, l'histoire des courses, ça veut dire que finalement, t'achètes un paquet de pâtes, tu vois, tu me dis, on fait des pâtes, tu vois, au supermarché, t'achètes un paquet de pâtes, mais tu le retrimbales pas, ou alors faut prendre que des petits paquets, enfin, comment tu gères ton truc là?
Bah, du coup, si tu sais que tu dors en tente, tu regardes quelle est la dernière grosse ville sur laquelle tu vas passer ou le petit village. Et maintenant, Maps, enfin, avec les cartes sur le téléphone, on peut vite voir s'il y a un supermarché dans la ville dans laquelle on va passer. Donc, comme ça, on peut regarder bah, s'il y a, peu importe le supermarché, s'il est ouvert. Et du coup, on se dit, bah, on passe par là et on prend le paquet de pâtes qui est là. Quitte à après, si notre lieu, on a prévu de dormir, c'est 7-8 bornes plus loin, bah, c'est pas grave, le paquet de pâtes, il sera porté sur 7-8 km, mais on sait qu'on aura un vrai repas derrière. Ce sera un peu plus lourd, mais on ne l'aura pas porté sur toute la journée depuis le matin, quoi. Donc ça peut être. Enfin, du coup, c'est une alternative pour avoir les pâtes et pas le porter tout le temps.
Ce serait quoi l'idéal à se dire, tu vois, tu pars sur plusieurs jours, le soir, faudrait manger quoi idéalement en fait?
Voilà, il faudrait reprendre des glucides, du coup, pour recharger les stocks en glycogène et des protéines pour réparer les muscles qui ont déjà bien tapé sur toute la journée de vélo qu'on vient de passer, que les muscles puissent récupérer plus rapidement et enchaîner le lendemain sans avoir trop de douleurs musculaires. Donc là, un repas type, bah, ça va être glucides, donc pâtes ou riz typique. Et après, en protéines, bah, soit on achète du jambon qui est déjà enfin, à la tranche. Du thon, comme je te disais, des sardines, du fromage, un yaourt. Ou alors, on a en effet des barres de céréales déjà protéinées qui vont nous apporter directement les protéines. Après, il y a aussi les graines oléagineuses qui sont pas mal. Tout ce qui est noix, amandes, noisettes, ça pareil, ça prend pas trop de place. Et il y a des protéines dedans et aussi un peu de lipides, enfin, pas mal de lipides. Du coup, ça peut être pas mal pour avoir l'apport lipidique et protidique en même temps.
D'accord.
Aussi, hein. On peut prendre des œufs, on achète, faut, je sais pas, après, il ne faut pas acheter la boîte de 12, quoi, mais si on est plusieurs, on prend une boîte de 4 ou de 6 et on en fait un le matin, un le soir, et ça fait en mode carbonara si on fait des pâtes, quoi. On laisse cuire le blanc dans les pâtes qui viennent
Ouais.
de cuire, et le jaune après, on le fait en mode carbo. Et là, du coup, tu as un bon apport de protéines.
D'accord. Ouais, je note ça aussi, tiens. C'est ce que je fais à la maison, mais c'est vrai que j'aurais pas pensé à le faire comme ça en balade. Alors, si toi, tu dis l'histoire, t'as dit le matin, le petit déjeuner, quand t'es en mode comme ça, tente, etc., l'idéal serait quoi?
Bah là, ce qui est pas mal, c'est porridge. Ce qui est un porridge, donc avec les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, pareil, c'est quelque chose pour transporter. On peut mettre dans des sachets en craft, du coup, qui prennent pas trop place. Et on peut recharger, du coup, en passant dans le supermarché quand on en a plus. Donc, flocons d'avoine avec. De toute façon, on fait à l'eau si on n'a pas acheté de lait, parce que bon, c'est trop compliqué. On ne peut pas se faire tout ça, alors que de l'eau, on en a plus facilement. Et dedans, bah, on peut mettre. Parce que je disais, par exemple, si tu restes l'œuf de la. Si t'as acheté 4 œufs et vous êtes deux, bah, le matin, t'en remets un pour faire comme un arbre cake. Et dedans, bah, tu vas mettre des raisins secs, des abricots secs. Si tu as acheté au supermarché une banane la veille au soir, tu mets ta banane. T'essayes d'enrichir un peu pour avoir un peu des fruits secs, tout un bon apport glucidique. J'ai envie de te dire, un peu comme un matin de marathon ou un matin de course, enfin, de sortie, quand tu sais que tu vas avoir une grosse journée sportive derrière.
Ouais. Bon, c'est vrai que les flocons d'avoine, ça prend pas énormément de place en plus, c'est pas trop lourd. Enfin, faut pas prendre le paquet d'un kilo, quoi, bien sûr, mais si t'as.
C'est assez digeste aussi.
Ouais, ça se digère, ça se cale assez bien. Moi, j'aime bien en plus, je crains pas. C'est ce que je mange tous les matins, donc je vais pas dire le contraire. Team flocons d'avoine. Je suis plus embêté par contre parce qu'amener mon pot de beurre cacahuète sur le vélo, c'est plus compliqué quand même, hein.
Oui, beurre de cacahuète, c'est. Ouais, du coup, là, je pense qu'on peut pendant 3-4 jours, pas de beurre de cacahuète.
En fait, pour la blague, j'avais dit, tiens, ça rentre sur le porte-bidon, là. Mon pot de beurre cacahuète, il tient sur le porte-bidon. Mais c'était pour la blague, j'avais fait la photo comme ça. Mais c'est vrai que après, à emporter, ou alors, il faudrait trouver un truc un petit pchit, mais ça n'existe même pas, en fait. C'est
Du
un peu
coup, ouais,
con.
sur le porte-bidon, par contre, t'enlèves un bidon pour
Bah
mettre
ouais,
le. Donc, t'as
c'est
un
ça.
bidon d'eau en moins, quoi. C'est
Ouais,
pas non plus.
c'est pas un bon calcul. Bon, bah, beurre
Moi, je fais des
cacahuète.
petits tubes. Je sais pas si ça se fait, mais je sais que pour la crème de marron, ils ont des petits tubes comme des petits tubes de dentifrice.
Ouais.
Peut-être en bord de cacahuète, ça existe. Du coup, ça se porte un peu mieux, quoi. Je sais pas, hein, peut-être que ça n'existe pas du tout. Hein, je sais
Ouais,
pas.
il faudrait que je cherche parce que c'est vrai que ça existe aussi pour le lait concentré.
Oui, voilà, exactement.
Ce truc que je détestais quand j'étais gamin et que je
Oui, moi, non,
redécouvre
c'est.
en me disant, et ça doit être pratique ce truc finalement. Mais gamin, j'ai détesté ça, je trouvais que c'était vraiment infâme, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est partie des
Supprimer.
choses qu'on peut emporter facilement.
Ouais.
Crème de marron, ça, je suis d'accord. Je prends, j'adore ce truc-là. T'as d'autres trucs comme ça qui s'emportent facilement, tu vois, qui.
Bah alors ouais, bah, les petits tubes comme ça c'est pas mal. Pareil, tu peux les avoir les petits tubes en sauce tomate. Tu peux avoir des petits tubes concentrés de tomate. Donc dans ce cas-là, pour pas que tu aies du riz sec, parce que bah, l'huile d'olive, tu peux pas la transporter une bouteille de 500 ml, c'est pas possible. Donc les petits tubes de sauce tomate comme ça, concentrés, tu le dilues un peu dans de l'eau. Et ça, pas mal. Pareil, ça sera toujours meilleur au niveau du repas, quoi. Après, tu vas avoir, bon, j'allais dire, les boîtes de conserve. Ça prend un peu de place, tu vois. Si tu veux un peu enrichir, si tu pars vraiment sur 3 semaines, 1 mois, que ça commence à être long, tu peux commencer à te dire, ben, moi, il va falloir une boîte de conserve, de lentilles ou autre pour avoir un autre apport. Après, les dates, c'est pas mal parce qu'au niveau de calorique, c'est un bon apport calorique. T'as abricots secs, tout ça, c'est bien. Hein.
Alors, maintenant, il y a quand même le truc, repas de midi. Parce que là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que. Alors après, je pense qu'il y a des gens qui sont en mode plus sportif que d'autres, hein, aussi. Ce que je te disais tout à l'heure, quand je faisais ma balade, là, mes 170 km pour aller en Bourgogne, sur les pistes cyclables le long du canal, il y a les petits. Alors, c'était des anciens qui roulaient en VAE, qui roulaient tranquille. Moi, j'ai doublé avec mon gravel. On n'est pas le même moteur, mais on avait la même destination avec certaines personnes. Donc, je sais pas combien de temps ils mettaient eux. Donc, je pense que bon, ça joue aussi. Hein, si on le met en mode balade ou en mode plus sportif aussi, hein, sur la dépense calorique, sur ce qu'on va manger, sur le temps de pause qu'on peut faire. Mais sur midi, enfin, il y a un moment donné dans la journée, il faut quand même s'arrêter vraiment pour bien manger, pour faire un vrai repas, parce que sinon on arrive grillé à la fin, quoi.
Ouais, faire un vrai repas, c'est toujours bien le midi parce que, comme tu dis, on va griller sinon. Donc là, ce que tu peux faire, bah, pareil, tu regardes encore dans une ville dans laquelle tu arrives. Et en général, il y a une petite boulangerie ou un truc comme ça. Donc tu peux t'arrêter. Soit tu fais coup double, tu vas à la boulangerie et au supermarché, te faire toi-même ton sandwich. Donc, comme ça, tu prends le pain à la boulange et au supermarché, tu vas prendre une tomate, du jambon et du fromage. Comme ça, t'as un peu de la crudité, la protéine. Le produit laitier et les glucides avec le pain. Donc tu te fais ça, ou alors tu t'arrêtes à la boulangerie et tu vois la part de pizza qui a l'air bien, ou la quiche qui est assez grosse et qui va suffire pour le repas du midi. Donc là, la boulangerie, c'est toujours la bonne alternative aussi. Il y a toujours des trucs assez caloriques et en général, c'est comme c'est une boulangerie, au niveau des glucides, il y a toujours soit la pizza, la quiche.
C'est ça le truc, parce que c'est ce que j'allais te dire, c'est que moi quand je vais dans une boulangerie, en général, ce qui me tente, c'est le chausson aux pommes, tous les trucs sucrés. Mais bon, à midi, enfin, faut plutôt... oui, il y a quoi? C'est quiche, pizza, les trucs comme ça, plutôt?
Ouais, tu vas avoir ça. Il y a quoi? Il y a les fougasses aussi. Ça peut être pas mal. T'as quoi aussi qu'ils font? Bah, des fois, ils font des chaussons salés aussi. Je me souviens, la dernière fois, il y avait un chausson. C'était jambon, fromage. C'était salé.
Ouais.
Il y a quoi aussi dans les boulangeries? Ouais, ils font des. Ouais, surtout quiche pizza. Hein, qui en général. Il y a des sandwichs aussi, des fois. C'est vrai qu'il y en a souvent, même. Donc, non, souvent, il y a quand même une bonne alternative pour repas. Enfin. Une bonne alternative, une alternative pour se faire un repas du midi sans devoir soi-même se sortir le réchaud, faire à manger à midi, parce que ça prend du temps quand même. Tout ce qui est réchaud, le temps que l'eau chauffe, c'est pas la même puissance que quand on est chez nous sur les plaques, donc c'est toujours un peu plus long. Les pâtes sont jamais cuites exactement pareil. Enfin.
Tu peux pas les lancer contre le mur pour savoir si c'est cuit.
Et voilà, donc.
Non, mais tu sais, quand j'étais gamin, on faisait la randonnée dans les Alpes et on avait un petit réchaud, tu sais, et dedans on mettait les plats lyophilisés. Alors, tu sais, à l'époque, alors je sais même pas si ça existe encore, tu sais, il y avait les trucs Gerbolino, tu vois ce que c'est? Ça existe encore là, ces trucs-là, là, où tu mets de l'eau chaude dedans, là? Ça faisait comme un petit bol, tu sais, tu mélangeais après. Et puis il y avait des plats lyophilisés en sachet. Alors maintenant, il y a des trucs vachement plus évolués, hein, parce que Amir Mano, il a acheté un stock pour sa traversée, il y a des trucs avec des plats dans tous les sens, etc. Et qui sont pas donnés, hein, d'ailleurs, hein, sur certaines marques, il y a
Non,
des.
ouais, l'utiliser, ouais.
C'est vraiment pas donné. C'est vrai que le réchaud, le temps que ça chauffe, de s'installer, trouver un truc à l'abri de l'air et du vent, etc., il y a un petit bout de
Oui, puis que
temps,
ce soit
etc.
plat aussi, parce que le réchaud, il ne faut pas qu'il soit un peu en décalé, sinon la casserole dessus, elle tombe, enfin, elle tient pas. Donc ouais, tout ça, il y a pas mal de contraintes. C'est bien, mais il y a quand même, faut savoir qu'il y a quand même des contraintes à avoir son réchaud. Du coup, le soir, c'est bien, le midi, c'est pas forcément toujours la meilleure alternative, quoi.
D'accord. Bon, bah, ça justifie quand même que je peux m'arrêter en boulangerie. Bon, après, je le dis, hein, parce que tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui s'arrêtait dans un fast-food. Et ça relance toujours le débat, parce qu'avec Leïla Lapironne, on a eu un débat. Elle m'a dit, mais pourquoi les gens s'arrêtent toujours à manger des trucs gras, des frites, des hamburgers, etc., après des gros efforts? Alors, à chaque fois, je pose la question à une nutritionniste. J'ai pas de réponse. Est-ce que tu as une idée, toi, de pourquoi, des fois, on a des envies de trucs gras, de sucrés, comme ça, de.
Ce qui est bizarre par contre, c'est que tu vois, le gras, normalement, enfin, physiologiquement, après un gros effort, c'est pas quelque chose vers lequel on devrait se tourner, puisque justement le système digestif a été mis au repos, puisque les vaisseaux sanguins et tout vont irriguer les muscles et pas le système digestif. Du coup, normalement, on ne devrait pas se tourner du tout. Après un marathon, il ne faudrait pas aller manger un burger,
Ouais.
parce que le système digestif a été mis au repos. Et là, par contre, au niveau gastrique, le corps ne va pas comprendre. Donc après, pourquoi on se tourne par là? Je pense que c'est plus de la gourmandise et parce qu'on se dit, je vais me faire un gros burger frites pour aller me remettre de l'énergie. Je ne sais pas si c'est vraiment toujours une envie, en fait. Ou alors aussi, ça peut être parce qu'on ne sait pas trop vers quoi se tourner, et le burger frites, c'est toujours une alternative. C'est un peu comme la pizza, quoi. On se dit, bah, je vais manger quoi? Je vais manger burger frites, c'est facile, ça se trouve assez facilement partout. Donc,
Ouais,
ouais.
c'est vrai que même dans les petits villages que j'ai traversés, j'étais étonné parce qu'il y a un village, je pensais pas qu'il était gros et j'ai vu un gros panneau avec la direction du fast-food. Je passais
Ouais,
devant
voilà.
et
Et
même
tu vas dans
dans.
une brasserie aussi, tu
Ouais.
trouves peut-être vite au menu, t'as entrecôte frites, quoi.
Mais tu vois, et j'arrive dans une ville un peu touristique où il y a un truc fast-food, il y a un truc kebab, il y a un truc pizzeria, il y a un truc pâte. Je m'arrête où au mieux?
Bah, pâte, là. Je te dirais pas, non.
Ça marche.
T'es tiré où, toi?
Bah, en fait, je sais pas, ça dépend. Moi, tu sais, je suis très pizza, en fait, je crois. Et tu sais, tu me sers une grosse pizza, pleine de fromage et tout, et puis avec un peu de poulet, de jambon dessus et tout. Je crois que, tu vois, j'irais plutôt à la pizza. Mais, je sais pas.
Oh, pizza le midi, pâtes le soir, ouais. Non, mais après, pizza, en vrai, c'est bien aussi, parce que tu as des glucides, ça dépend ce qu'il y a sur la pizza, mais c'est pas non plus l'aliment à bannir du tout, surtout quand on part en vélo comme ça.
Ouais, bon, jusqu'à maintenant, quand même, il manque un truc, c'est le dessert. Alors, moi, je suis. Alors, et je le dis, hein, c'est pour ça que je le disais en plaisantant, je disais dans une boulangerie, moi, je prends toujours un truc sucré. Mais c'est vrai, quand même, tu vois, moi, j'aime bien les desserts, les trucs comme ça. Puis, j'ai des coureurs qui m'ont dit, après une grande course, mais comme même les ultra trail, ils mangent des glaces, tu vois, des trucs comme ça. Bon, amener sa glace sur son vélo, c'est raté. Par contre, s'arrêter pour manger une glace dans un village, ça, il n'y a pas de contre-indication.
Non, ça se fait. Après, la glace, c'est pas ce qu'il va apporter au niveau. Si on veut vraiment optimiser, ce sera plus un plaisir qu'un apport intéressant pour le corps. Parce que la glace, ça reste de l'eau, du sucre. Enfin, ça va pas apporter non plus la folie au corps, mais y a pas du tout de contre-indication non plus. C'est pas le plus optimal. Pas le plus optimal. C'est pas ce que j'irais conseiller à dire pour ton 6 heures, pour ton 4 heures. Prends une glace dans le village du coin. Après, s'il fait super chaud et que c'est une grosse envie, ça passe
Ouais,
quoi.
je prends quoi pour
C'est
mon
pas non plus
4 heures?
hyper nutritif, quoi, c'est ça qu'il faut dire.
Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça rafraîchit, tu vois. L'autre jour, il faisait chaud, j'ai pris
Voilà.
un truc, un glaçon, là, tu vois, genre Mister
Mais des
Freeze,
fois,
tu sais, compagnie.
ça peut avoir l'effet inverse, ça rafraîchit. Et après, comme c'est sucré, on a encore plus envie de boire, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est une bonne remarque. Je l'ai testé. Effectivement, tu as raison. Mais alors, dans ce cas-là, enfin, la collation, parce que si tu roules, alors, je sais pas après d'ailleurs, peut-être que. Enfin, moi, tu vois, j'ai de bonnes idées, mais je sais pas. Tu vois, si tu pars en bikepacking sur une semaine ou 2 semaines, etc. Enfin, tu te mets une limite de distance à parcourir, de temps de roulage ou pas, ou finalement tu gères comment ça? Parce que pour te dire de.
Bah, là, je mettrais enfin, un point de départ, un point d'arrivée, et se
Ouais.
dire bon, bah, 2 semaines pour y aller, mais comme on ne peut pas gérer tous les aléas de parcours, une crevaison, un mauvais temps, grosse tempête, un peu malade sur une journée, je sais pas, insolation, enfin, peu importe tous les
Ouais.
aléas qui vont arriver, se mettre des contraintes de distance, ça peut se retourner aussi contre nous, dans le sens où à un moment, bah, on se dit, je peux pas aller à ce point-là, parce que physiquement, je peux plus, j'ai plus de force. Donc, je conseillerais, si c'est avec la tente et tout, parce qu'en effet, là, par contre, si c'est un hôtel, bah, on est un peu bloqué, puisqu'il faut le rejoindre. Mais si par contre, c'est avec la tente, bah, là, on peut se dire, bah, je fais au jour le jour, comme j'ai envie. Je sais qu'en moyenne, entre mon point A et mon point B, j'ai aucune idée, j'ai à peu près 1 200 km, je sais pas, et j'ai 15 jours pour les faire, donc en moyenne, ça va me faire 30 km par jour. Et après, j'adapte si un jour où je roule trop bien parce que c'est en faux plat descendant sur 80 km. Par contre, si c'est le lendemain, bah, c'est faux plat montant sur 60 bornes. Bah, du coup, plutôt ad adapté au jour le jour, quoi, je pense. Et selon la forme physique, selon le parcours, selon la météo, selon s'il y a un truc à visiter sur le coin, parce qu'on va passer dans une grande ville, pardon, dans laquelle on va aller la visiter. Enfin, voilà. Pas forcément, je ne mettrai pas forcément de contraintes, mais après, ça dépend, pareil, du type de voyage qu'on veut faire. Si on veut envoyer des bornes tous les jours, dans ce cas-là, il faut rouler tous les jours. Ou si c'est vraiment un voyage dans lequel on veut profiter et pas se prendre plus la tête que ça.
Parce qu'en fait, ma question était de dire si on borne beaucoup, enfin, il y a un moment donné aussi dans l'après-midi, il faut recharger, il y a les histoires des collations, des pauses, etc. Faudrait manger quoi toutes les. Parce qu'on disait, il y a les histoires de bidons, de remplir les bidons, etc. Donc, les bidons, si on part sur plusieurs jours, on peut avoir des systèmes de pastilles ou de petits sachets de poudre ou des trucs comme ça qu'on peut remplir à chaque fois, quoi. Finalement, chaque jour, sans refaire.
Ouais, bah complètement, là, si tu pars plusieurs jours, tu prends tes pastilles, tu prévois les barres de céréales sur tant de temps, tu sais que tu pars 2 semaines, bah, tu comptes à peu près les barres de céréales, sachant que tu peux recharger dans des supermarchés. Et en effet, plus ton effort va être long, bah, plus du coup les collations, va falloir en prévoir beaucoup, parce que du coup, tu crames plus que si tu vas rouler 3 heures dans la journée, si toi, tu as prévu de faire 150 bornes par jour, bah, du coup, tu vas avoir beaucoup plus de collations et ça va être, enfin, ton apport nutritionnel va être bien plus conséquent que si, voilà, oui, en effet, t'es 3-4 heures par jour. Donc, au niveau de l'eau, au niveau des calories, au niveau de tout, ça va être plus, en fait, ça c'est sûr.
Et tu vois, là, ça m'amène une question, c'est quoi la bonne stratégie pour préparer ça, en fait? Tu vois, celui qui a jamais fait ça, tu vois, tu vas dire. Tu lui dis quoi, enfin, sur le premier truc, comment tu essayes de prévoir de.
Bah, je pense déjà sur un week-end ou un week-end de 3 jours, là, comme on disait lundi, c'était férié, bah, déjà partir sur 2, 3 jours pour tester le matériel, savoir ce qui, bah, si on a oublié un truc, bah, comme ça on n'est pas parti sur les 2 semaines en ayant oublié ça. Et bah, on apprend de toute façon des erreurs qu'on fait et le fait de pratiquer. Donc pas commencer sur un mois à se dire je vais faire le tour de France alors que j'ai jamais fait un week-end en backpacking avec la tente, avec le réchaud et tout. C'est vrai qu'il y a quand même des petites choses à penser. Par exemple, les allumettes, il ne faut pas les oublier. Bon, ça s'achète, hein, c'est toujours pareil, c'est des choses qui s'achètent. Mais c'est quand même des choses, si je pars à la... tout est fermé, je n'ai pas d'allumettes, bah, je ne peux pas manger chaud, quoi.
Bah, je
Donc
suis.
c'est des petites choses comme ça sur lesquelles il vaut mieux le faire sur un petit laps de temps. Et comme ça, après, on peut le faire plus grand. Et après, en effet, si c'est quelqu'un qui prévoit de faire un long voyage, bah, toujours pareil, de la semaine, ça c'est comme en course à pied, comme en tout, il faut s'entraîner et on ne part pas faire 150 bornes pendant 3 semaines si on n'a pas fait de volume en vélo non plus les semaines précédentes, quoi. C'est quand même quelque chose qui se prépare parce que c'est un effort où les genoux, il ne faut pas se blesser non plus, c'est un autre problème, mais il faut que le corps soit prêt.
Y aurait des trucs à apporter absolument, tu vois. Tu sais, on a parlé des dattes, des oléagineux, des trucs comme ça. Tu vois d'autres trucs à dire. J'ai bien apprécié quand même, tu vois, dans un voyage vélo, ce genre de truc-là.
Bah, tu vois, type des petits trucs, bon, je ne suis pas pro du tout complément alimentaire, mais c'est vrai que si tu pars longtemps en voyage, et bah, c'est peut-être pas mal d'avoir des petits compléments alimentaires en vitamine C le matin, comme ça tu es sûr d'avoir ton apport parce que tu ne sais pas trop les fruits ce que tu vas trouver. Si tu es au milieu d'un pays, ça dépend des pays dans lesquels on va, mais il y a des pays où enfin, y a moins de fruits, moins de légumes que nous on peut trouver en France par exemple. Du coup, l'apport en vitamine va être moindre, bah, au moins on est sûr qu'on a son apport en vitamine C dès le matin, et c'est quand même quelque chose qui est important, tout ce qui va être antioxydant, pour que le corps, toujours pareil, qu'on ne se blesse pas et qu'on soit en bonne santé, parce que c'est quand même la santé est quand même primordiale, enfin, sur un voyage comme ça, d'autant plus, quoi. Donc oui, je pourrais dire par exemple ça en vitamine C. Après, qu'est-ce qu'il y a qui est important? Pareil, les petites pastilles, je pense que c'est non négligeable. Et puis là, du coup, c'est pas que des pastilles. Enfin, du coup, dans la gourde, comme c'est des efforts qui vont être longs, c'est pas que des pastilles glucidiques. On peut passer sur des pastilles où il y a même un apport en protéines. Parce que, du coup, comme l'effort est long, c'est un effort de longue durée, on va dépasser les 3-4 heures. Et à partir de 3-4 heures, c'est important d'avoir un apport en protéines. Aussi en électrolytes. Donc, ça encore, c'est encore un autre truc. Mais du coup, tout ce qui est électrolyte pour la perte de transpiration, enfin, pour la transpiration, pour tout ça. Et bah, du coup, du sel aussi. Qu'on va perdre avec la transpiration. Donc, tu vois, type, si à mon coup, il y a des petits paquets de tuques ou des trucs comme ça peut être des choses qui peuvent refaire un peu en selle.
Ah oui, un petit paquet de trucs, j'en ai dans mon placard.
Ouais, du coup, les boissons aussi, tu vois, quand tu vas t'arrêter dans des boissons fraîches, enfin, si c'est quand il fait chaud et tout, bah, des boissons énergisantes où il va y avoir des énergétiques, où il va y avoir des électrolytes dedans. Quand on s'arrête dans un supermarché, le frigo est froid, je prends ma petite boisson et comme ça je me refais aussi un peu en électrolyte, quoi.
Ça marche. Moi, je me suis arrêté boire un café. C'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Enfin.
Bon, j'ai envie de te dire ni mauvaise ni bonne. Non, c'est bon. Peut-être juste boire du café, c'est un peu. Ça va un peu te. C'est excitant aussi, donc ça peut te relancer aussi. Tu vois, si tu le prends vers 15 h, t'es un peu mort, si t'as commencé à 7 h, ça peut te relancer aussi, quoi. Non, c'est pas. Ouais, ça peut être. Si t'as l'habitude et tout, non, ça se fait. Hein.
Et sur mon gravelman, j'ai pris un gros paquet de bonbons. Conseil d'une coach en cyclisme qui m'a dit, tu verras, tu l'apprécieras. Et en fait, elle avait raison. C'est-à-dire qu'à la nuit tombée, j'ai vraiment apprécié mon paquet de bonbons. C'est pas que psychologique, cette histoire-là, en fait. C'est-à-dire que ça a un vrai apport, quand même, le sucre, dans certains moments.
Physiologiquement, bah, de toute façon, là, c'était vers la fin de
Je
ton
pense que je l'ai
effort.
attaqué au kilomètre 120. Et qu'il y avait 147 km. Attends, je suis en train de calculer, tu vois. Gravelman n'en a pas une moyenne très rapide.
Ouais, tu vois. Non, mais c'est sûr que là, tu commences à taper, tu as moins de sucre dans le sang, enfin, tu as moins d'énergie, donc forcément, là, tu vas apporter un shot de sucre, bah, ça relance, hein, c'est physiologique, hein. C'est juste que bah, c'est plus au niveau de tout ce qui va être additif, édulcorant et tout, qui n'est pas forcément bon. Et on va dire que ça apporte rien quand tu Voilà, si je suis en train de manger, si je mange un paquet de bonbons pendant que je te parle, ça ne m'apporte rien. Mais c'est vrai que là, quand tu es en effort et que ton corps est complètement mort, tu es cuit, bah, en fait, on va trouver les bénéfices d'un bonbon dedans.
Ouais. Non, parce qu'une frestagada, c'est quand même vachement plus réconfortant qu'une date. Enfin.
Ouais, bah ça dépend, tu vois. Je pense que ça
Non, c'est
dépend
une
vraiment des
blague, parce que
personnes. Hein.
j'adore les dates en plus.
Ouais.
C'est une plaisante. Et le truc, en
Et en
plus, c'est
plus,
que.
les dates vont apporter plus de. Bah là, au niveau calorique, du coup, ça va être plus intéressant parce que c'est quand même bien dense et il va y avoir plus d'énergie dedans que dans les frestagada.
Ouais, puis j'ai une tendance à penser que peut-être que l'effet est moins. Enfin, comme s'il faut mâcher, qu'il y a des fibres et tout, que ça va être
Oui.
plus long terme en
Oui, ça va
plus
être un peu
l'effet,
plus
non?
long à arriver dans le sang, par contre. Ouais.
Ouais. Donc,
Ouais.
ça a aussi un intérêt, peut-être. Alors, faut peut-être l'anticiper, la manger. Le truc, c'est qu'en plus, j'ai pris des dates hein, sur mon Gravelman. J'ai commencé avec des dates à un moment donné, avant d'attaquer les bonbons.
Mais tu vois, non, mais c'est ça, les bonbons, c'est tu vas les prendre quand vraiment tu peux plus anticiper que tu as besoin de sucre tout de suite. C'est un peu, si tu veux, le même effet que le gel au marathon, quoi. Tu vas prendre le gel et ça te relance. Bah, les bonbons, ça arrive tout de suite enfin, le sucre arrive tout de suite dans le sang parce qu'il n'y a rien besoin de mâcher, il n'y a pas de fibres, enfin, tout seul. Alors qu'en effet, les dattes, c'est plus quelque chose que tu vas prendre au début ou alors quand tu as vraiment tout bien anticipé et que du coup, tu arrives au moment où enfin, tu n'as pas besoin de bonbons, quoi, puisque tu as anticipé les dattes un peu plus tôt, quoi.
Ouais, on dirait que les bonbons, c'est la gourmandise après. C'est comme mon paquet de M&M's, c'est que j'ai mon petit truc. Si, j'ai un paquet de M&M's aussi sur mon Gravelman. En
Bah, tu vois, M&M's,
réconfort.
par contre, il y a une noix ou une amande dedans.
Ouais, il y a de la noisette. Non, de la cacahuète.
Ouais, de la cacahuète, bah, du coup, ça se digère. Enfin, il y a quand même un oléagineux dedans, quoi.
Ouais, c'est pratique en plus, ça c'est inventé pour que ça fonde pas dans la main. Et c'est vrai que ça fond pas non plus dans les sacoches, parce que tu vois, moi qui adore le chocolat. L'autre jour, si j'avais amené du chocolat avec moi, enfin, le chocolat sorti l'été en bypacking.
Bah, je l'ai fait, ça, moi, la tablette de chocolat, elle a fondu dans ma sacoche. Pas très drôle à ce moment-là.
Parce que moi, je serais bien du genre à l'avoir, ma tablette de chocolat et qu'elle fonde sur mes vêtements, tu vois, mais.
Ouais.
Mais bon, les mêmes, j'ai testé, ça fond pas. C'était inventé pour ça, d'ailleurs, ça fond pas, donc c'est assez pratique. Et qui, moi, qui suis très gourmand, et tu vois, j'ai du mal à me passer de mon carré de chocolat quand même. Donc, je l'aurais fait, l'histoire de la tablette de chocolat, tu vois, dans mon truc. J'aurais dit, j'embarque.
Bon,
Bon. Il y a d'autres trucs à pas emporter, tu vois, genre, tiens, on va dire le chocolat, tu vois, il y a des trucs, tu dis, pff, ça te paraissait une bonne idée, puis en fait, c'était un peu couillon.
Bah, après tous les trucs qui vont être un peu frais, tu vois, par exemple, si tu peux le soir tu veux un yaourt, bah faut anticiper d'en prendre soit que deux ou soit tu es sûr de le manger le lendemain matin. Parce qu'après, il pourra pas faire tous les trucs au soleil, en fait, il ne pourra pas faire toute la journée après dans la sacoche, quoi. Donc ça, sûr qu'on peut emporter. Après, qu'est-ce que. Ouais, tous les trucs qui vont tourner un peu le fromage, pareil. Enfin, tous les trucs frais, en fait, on les met pas dans les sacoches, quoi. Parce qu'après, s'il fait chaud, possible.
Ouais, ce qui veut dire que tu vois, alors, quand tu es en groupe, ça va être facile de faire enfin, tu peux partager les courses, je veux dire, parce que des fois, étrange le fromage, tu trouves des bouts de fromage, il faut 3-4, mais quand tu es tout seul, c'est pas évident, tu vois, enfin, ou à deux, tu vois, enfin,
De les porter, tu veux dire, après?
bah, de trouver des quantités que tu vas pas être obligé de jeter, tu vois, que tu vas pouvoir conserver,
Ah bah
enfin,
faut connaître, ouais, bah, faut connaître les quantités exactes que tu consommes, en fait. Et ça, bah
ouais.
pareil, tu vois, quand tu me disais, tu pars, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un, bah tu vois, tu testes sur le week-end et tu te dis, bah tu sais que là, le soir, tu vas manger, je sais pas, 200 grammes de pâtes, 150 grammes de pâtes. Et du coup, la personne sait en fait la quantité qu'elle va manger, quoi. Et ça, c'est important de le savoir. Si tu sais que tu manges tant et tant, tu peux anticiper, quoi. Tu peux gérer, en fait.
Tu peux gérer. Bon, écoute, je pense que mes petites sacoches sont bien remplies. je sais pas où je vais, mais en tout cas, je sais comment je vais les remplir. Donc, bon, je vais éviter de manger les tucs avant, ou sinon j'en rachèterai. Je vais éviter de manger mes bonbons. Bah non, ça c'est déjà trop tard. Mes petits sachets de poudre en tout genre. Bah écoute, non, mais c'est vrai qu'en plus c'est bien pratique. Puis dans les sacoches, ça se remplit dans des petits trous, des petits trucs comme ça, faire des petits sachets de. Les dattes dans des petits sachets, etc. Ça se cale assez bien quand même. Il y a plein de trucs qui se calent assez bien. C'est vrai, tu disais même les boîtes de thon. Finalement, ça prend pas beaucoup de place. Une boîte de thon, enfin, ou des choses comme ça se
Oui, non,
remet
tu vois,
assez bien.
des trucs, des petites boîtes de sardines, tout ça, c'est pas des choses qui prennent de la place folle non plus, tu vois. Et aussi, typiquement, tu vois, je pensais à Pierron, ils font les petits sticks de miel comme ça dans les sacoches, ça se met très bien, ça prend pas de place, et ça fait du sucre rapidement assimilable, quoi, pour les
Ouais.
gènes. Donc
ça,
ça,
bien
c'est
sûr, je ne l'avais pas dit, mais parce que moi, j'en ai toujours tellement dans les poches partout, même sur mon bureau. J'en ai partout dans la maison, dans mes trucs, etc. L'autre jour, j'ai lavé le cuissard, ouais. Je me suis rendu compte que j'avais deux sticks dans les poches. Bon, j'ai dû relaver le cuissard après. Ouais, mais c'est vrai que c'est bien pratique parce qu'il y en a partout. J'en ai partout dans mes sacoches, à droite, à gauche, etc. Donc, effectivement, ça fait partie des éléments qui sont essentiels. Et c'est vrai qu'en plus, ça se glisse partout. Donc, c'est assez pratique. Sur mon week-end, là où j'étais parti 3 jours, je ne sais plus comment j'en avais embarqué plein. J'ai pris aussi la boisson d'effort longue durée pour faire des recharges et tout.
Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire, même leur barre de céréales, tu vois, ils ont même la barre de céréales protéinée pour après l'effort. Donc, ils ont celle d'effort. Graines de chia et tout, et ils ont celle après qui est protéinée, donc ça en fait c'est parfait, c'est parfait. En plus, elles sont petites, elles sont compactes, et pour des voyages comme ça elles sont vraiment faciles d'utilisation, et il y a les apports nécessaires dedans pour justement essayer de manquer de rien.
Mais écoute, ben comme ça, tu vois, j'ai mon petit stock, je vais pouvoir remplir mes sacoches. Alors, je sais toujours pas où je vais, hein, mais ça, je verrai, je découvrirai.
Tu sais quand tu pars?
Non plus.
Non plus.
Non, parce que pour l'anecdote, en fait, c'est-à-dire que j'ai voulu faire mon test de 3 jours. Donc, j'ai fait le test de 3 jours et j'ai dit, ouais, c'est quand même cool. Et je dis, maintenant, la prochaine fois, j'irai voir la mer ou l'océan. Alors, suivant d'où je pars et comment je pars, etc., je me dis, je vais voir un peu le trajet, etc. Mais moi, j'aime pas faire des plans, tu sais, j'aime pas faire des traces, des maps, etc., long terme, dire, je vais m'arrêter à tel endroit, etc. C'est pas trop mon truc, en fait, ça me gave un peu, j'aime pas cette étape-là. Donc, je partirais peut-être un petit peu à l'aventure, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me dis, faut que je sois un petit peu autonome dans mon histoire.
Oui. Ouais, tu pars plus au jour le jour et tu calcules pas trop la trace. Quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, comme j'ai aucune notion de la vitesse à laquelle je roule, même si là, maintenant, c'est vrai que sur 3 jours, j'ai quand même vu plus les moyennes qu'on peut avoir, comment la moyenne se gère, etc. C'est vrai que le fait d'avoir testé ça, d'avoir fait déjà un aller-retour comme ça, Bourgogne, Beaujolais et tout, j'ai vu les moyennes, comment ça peut évoluer, comment ça peut se gérer un petit peu plus. C'est vrai que c'est très, très intéressant. Il n'y a que les repas que je n'ai pas gérés en autonomie, mis à part mes arrêts boulangerie. Et puis quand je suis passé à Rouen, un petit peu brioche au praline, parce que c'était incontournable de faire ça. Certains m'ont dit, dans le Beaujolais, tu t'arrêtes bien pour boire un verre. Moi, non, mais bon... Il y a des passages obligés comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour les conseils. Tu vois, moi, j'ai noté plein de trucs. Ça répond à plein de questions. Parce que c'est vrai que j'ai plein de gens, il y en a plein d'auditeurs, en fait. Le vélo, on voit des aventures, on voit des gens qui partent, ça donne envie. C'est grisant, en plus, le vélo, parce qu'on découvre des nouveaux territoires, on peut aller super loin, finalement, relativement vite, enfin, par rapport à la course à pied.
Oui, bah tu fais une beaucoup plus grande distance, oui, c'est sûr.
Tu fais des plus grandes distances, tu peux te dire, bah tiens, je peux aller voir tel truc assez facilement, etc. J'ai eu des gens, tu vois, qui ont commencé par vélo taf et qui se disent, bah maintenant je vais faire 3-4 jours comme ça en bikepacking pour voir.
Oui.
Mais quand tu commences à te dire, je vais prendre le vélo, je vais à un endroit, tu te retrouves sur ce truc. Moi, personnellement, avoir faim sur la route, c'était pas mon kiff. Donc, c'est pour ça qu'on avait dit, il faut qu'on invite quelqu'un qui connaît le sujet, tu vois, qui peut nous apporter des infos. Et tu nous as donné plein d'infos, plein d'astuces, plein de trucs. Donc, je te remercie vraiment beaucoup. Parce que, tu vois, moi, j'ai fait ma petite liste. Je vais noter tous les trucs en me disant, je vais porter ça, je vais prendre ça, etc. Je vais me méfier de pas partir un jour où c'est férié. Donc, 14 juillet, 15 août, qu'est-ce qu'il y a comme jour?
Ou alors, t'anticipes les sacoches, les repas.
Ouais, ou alors, j'anticipe les sacoches, les repas. Je vais prévoir mes petites boîtes de macro, parce que moi, j'adore le macro. Je suis pas très sardine, ouais. Mais j'adore le macro. Mais là aussi, on est dans des trucs pas mal. Et puis, écoute, je vais me garder mon budget aussi pour mes boulangeries, pour m'arrêter sur les boulangeries, les trucs comme ça, hein. Ça marche toujours.
En plus, ça fait toujours plaisir, les arrêts boulangeries. C'est les meilleurs en bikepacking.
Et la petite glace, à l'arrivée.
Voilà.
Bah écoute, on a un bon plan alimentaire. En tout cas, je te remercie beaucoup. T'as une aventure de vélo, un truc comme ça qui est prévu bientôt ou tu
je pars en Norvège. Là, je vais faire les Lofoten jusqu'au Cap Nord en juillet.
Oula.
Ouais.
Combien de kilomètres?
Je sais pas exactement. Je sais pas exactement. Ça va faire vers 2000, je pense, sur 3 semaines. Voilà. L'année dernière, j'avais fait tout ce qui était la Grèce. Enfin, j'étais arrivée à Athènes, j'étais partie de Poula et j'étais arrivée à Athènes par toute la côte. Donc là, on change. On va un peu plus au nord. J'espère que la météo, ça ira.
Ça me fait penser parce que je fais un petit clin d'œil à Nathalie Bayon que j'ai eu dans le kilomètre 350 qui a fini son périple pour traverser de l'Europe jusqu'au Cap Nord, 18 jours.
Ah, oui.
18 jours, mais alors les conditions météo à la fin, la neige, etc.
Ah ouais, mais ça c'est...
Vraiment un sacré truc, mais parce que tu pars de l'Espagne, elle est partie de l'Espagne pour monter jusqu'au Cap Nord,
Ah ouais,
18
à la tour
jours
montée,
à
mec.
toute vitesse. Donc c'était c'est la marraine de Kilomètre 150, mon podcast sur le vélo. Donc
Ok.
elle a fini là juste il y a je sais pas, 2 ou 3 jours avant qu'on enregistre. Et c'est vrai que le temps, vraiment, là tu vois que c'est vraiment le nord, hein, parce que nous on avait super chaud, mais elle, tu vois les conditions entre la pluie, la neige, etc. Enfin vraiment le mauvais temps. Donc ça permet de faire un petit clin d'œil et de rappeler ben, qu'elle a réussi cet exploit, parce que c'est vraiment un vrai exploit d'avoir traversé tout ça. Il y avait un record Guinness à battre de la traversée la plus rapide. Et en tout cas, chapeau à elle. Et bah écoute, je te remercie pour tous ces conseils. Je te souhaite un beau voyage, hein, de bien en profiter.
Bah toi aussi, je sais pas où tu
Bah
vas,
ouais.
mais
Bah écoute,
non,
hein, moins loin que toi. Moins loin que toi. Mais après, à chaque fois, je croise quelqu'un, il y en a, ils me disent, ah, tu pourrais aller faire ce truc-là, tu pourrais aller ce truc-là. Il y en a, ils m'ont dit, va à
bah y a
Saint-Malo.
tellement à faire que
Ouais. Il y en a qui
t'as
m'ont dit il faut
prévu.
aller en Bretagne, il faut aller faire tel canal, il faut aller faire ça, etc. et tout, faut faire ça. Puis il y en a qui m'ont proposé de dire mais si tu partais de Bordeaux, tu pourrais aller jusqu'à la Méditerranée de l'autre côté, etc. Enfin, bref, je crois que tout le monde a son idée.
Oui, il y a toutes les routes qu'on peut prendre, forcément.
Et puis j'ai découvert aussi avec le vélo un truc que je n'avais pas vu, c'était toutes les véloroutes qui existent à droite, à gauche,
Ah
etc.
oui.
Et c'est vrai qu'en fait, il y a des traversées, il y a des endroits où on découvre des choses. Alors en plus, il y a des arrêts des fois dans les villages, ou alors ça
C'est
contourne un peu.
Eurovélo que ça s'appelle, les routes. C'est
Ouais.
Euro... Ouais.
Donc Eurovélo, donc j'ai pris la Véloire dans la
Ok.
traversée de la Loire, qui est très sympathique. Mis à part qu'il y a des barrières au milieu, tu sais, pour empêcher les voitures de passer, et que
Ah
la
oui.
première fois ça fait rigoler, mais que
Avec le poids des sacoches qui balance un peu vers l'intérieur.
à la 50e barrière, t'en as un petit peu marre de ce truc-là. En tout cas, voilà, c'est fait partie de la découverte. Je te remercie beaucoup, en tout cas, Alice, pour tous les conseils. Moi, j'ai tout noté. N'hésitez pas aussi à tout noter. Il y a un endroit où on peut te suivre, te contacter, te demander des conseils, te consulter. Comment on fait
Bah,
pour
j'ai mon
te...
site internet qui est directement dans ma bio Instagram, si vous voulez me contacter. Et sinon, bah, directement sur Instagram. Pas
Tu
de
sais
problème.
sous quel nom tu te retrouves?
Alice, vous trouvez Alice Michel, mais sinon c'est Alice MCHL, Instagram.
Ça marche. De toute façon, tu sais ce que je fais. Moi, je prends les liens, je les mets en note de l'épisode. Comme ça, regardez dans la description de l'épisode, vous aurez les liens. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera à explorer le sport, le mouvement, et quoi manger pour arriver jusqu'au bout. Parce que quand même, c'est super important. Merci beaucoup.
Ben, merci à toi pour ton temps et l'invitation.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.